Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de cinéma qui a un gros sommaire aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait des choses qui n'apparaissent plus à la fin de l'émission, notamment eh bien, une interview qui était prévue de Reim Rosales, réalisateur de La Belle Jeunesse, voilà, qu'on évacuera peut-être. Sinon, eh bien, Marine, tu as vu un film, c'est lequel ?
Oui, alors moi je vais vous parler du film qui a eu la Dog Palm l'année dernière, c'est-à-dire le prix d'interprétation canine, en effet, puisque c'est interprété surtout par un chien. Je vais vous parler de White Dog, un film hongrois de Cornel Mundruczó. Voilà.
Tu n'as pas dit White Dog
là ? Eh si.
White
si,
Dog.
C'est White God. God.
C'est God, ah, voilà. Mais tout le monde fait l'erreur. Et toi, Manu, tu reviens avec la Hammer que tu n'avais pas pu faire la semaine dernière.
Oui, effectivement. Donc, je vais parler de la Hammer de la série Quatermass et puis aussi du gros film français sorti la semaine dernière, La French.
Et puis, donc, si on risque d'évacuer l'interview de Reim Rosales, l'espagnol, on écoutera Abdal Malik pour son film Qu'Allah bénisse la France, qui sort mercredi 10 décembre. Il est venu à Montpellier et donc on a pu discuter un peu avec lui. Et puis, on fera une petite chronique sur Mr. Turner, film de Mike Lee. On en profitera pour faire un blind test. On jouera à deviner, mais quels sont les titres de ces films avec des noms de peintres. Voilà, c'est Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, l'histoire romancée du juge Michel, assassiné au début des années 80, est plutôt une idée alléchante sur le papier. En nous immergeant au cœur des années giscardiennes, La French laissait espérer un désir de renouer avec un certain cinéma politique à l'ancienne et aussi une manière de rendre hommage à tout un pan du cinéma français des années 70. Hein, les films un peu du dimanche soir, de Jacques Deray à Henri Verneuil, en passant aussi par Yves Boisset.
C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte.
La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de New York.
America's public enemy number one is drug abuse.
C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pire. Tout le monde le sait, hein. Qui dirige l'organisation, qui contrôle la CAM.
Bon, envoyez un message à Zampa, on va quand même lui dire que la fête est terminée.
Bonjour, je suis juge Michel.
Vous voyez alors ce que ça peut me foutre.
Moi, je vais vous coller maximum.
Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps.
T'es pas en train de te mettre en danger ?
Ok, lancez l'intervention.
Tu vois pas ce que t'es en train de faire, Pierre ? Regarde-toi, t'es excité, t'es à cran, comme quand tu passais toutes tes nuits à jouer au poker. La vraie différence, c'est que tu joues pas avec ton argent, tu joues avec ta vie.
Pour rappeler les faits, hein, l'action se déroule en 1975. Le juge Michel est fraîchement débarqué à Marseille avec femme et enfant et est nommé juge du grand banditisme. Alors il décide de s'attaquer à la French Connection, hein, c'est l'organisation mafieuse à qui l'on doit aussi un film non moins célèbre signé William Friedkin. Alors le Saint-Juge part en croisade contre le très très méchant Zampa. Et le film, malheureusement, s'arrête là, à cet affrontement sans merci et obsessionnel entre les deux hommes. Un peu comme si Cédric Jimenez se rêverait en Michael Mann, période hit, tout en souhaitant déployer une fresque criminelle dans le sillage des œuvres de Martin Scorsese. Alors cette ambition ou ce manque de modestie dessert pour moi totalement le film, hein, qui est écrasé par ses références et rate du coup le coche de nous livrer un polar sympa à l'ancienne, énergique et nostalgique. Alors French est un film que je trouve boursouflé et truffé d'invraisemblance. Hein. Alors, un exemple, hein, comment le fou incarné par un Benoît Magimel en roue libre peut-il s'en sortir après avoir reçu plus de 10 balles dans le corps ? Alors, comment est-ce possible qu'un juge incorruptible puisse accepter de l'argent de son ennemi pour le refiler à une œuvre caritative ? À mon avis, c'est
absolument... C'est un pied-né, peut-être, tout simplement, qu'il a voulu faire.
Oui, mais c'est absolument impossible dans la réalité. Ouais. Ah bon. Alors deux énormes bourdes qui nuisent à un film qui bénéficie néanmoins d'une reconstitution très soignée et de quelques scènes d'action bien emballées. Alors le plus décevant réside dans la confrontation entre Dujardin et Lelouch, hein, loin d'égaler leur modèle. Le monolithisme de Lelouch finit même par rendre son personnage sans aucun charisme. Alors les seconds rôles outrés, parfois caricaturaux, rappellent néanmoins les polars bis italiens des années 70. Ce serait presque une qualité si le désir de Jimenez n'était pas ailleurs. au cœur plutôt d'un grand cinéma américain. Alors, une déception à l'image, je trouve, de cette fin-là, en montage alterné, qui est complètement ratée.
Mmh. Voilà, en tout cas, il y a d'autres invraisemblances, hein, parce que la famille s'en est mêlée. Plein, alors là, celle que tu viens de donner, je sais pas, j'ai rien lu là-dessus, mais en tout cas, il semblerait... Alors, ils ont installé une espèce de petite passion pour le jeu, une passion passée, enfin pour le jeu du juge Michel, donc il serait pas si droit que ça, hein, finalement. Il a lui aussi ses vieux démons, et il semblerait que ça soit complètement à côté de la plaque, ça n'a jamais existé. Et puis après, bon, le film insiste un peu sur les relations qu'il peut avoir avec sa femme. Là aussi, la famille n'était pas d'accord. Bon, bah, c'est peut-être un peu normal parce que c'est les premiers visés, mais en tout cas, effectivement, on a en face de nous une stature de juge, voilà, incorruptible, implacable, et puis de l'autre côté, effectivement, un Zampa, c'est ça,
un Zampa sans nuance.
Qui est complètement effacé. Enfin, voilà. De toute façon, il ne s'y intéresse quasiment pas, hein,
oui,
le réalisateur.
Il est méchant et point barre. Enfin, c'est un peu ça le problème. Et ce n'est pas un défaut, à mon avis, de s'inspirer d'un fait divers et d'en faire autre chose, quitte à prendre des libertés avec la vérité. C'est que là, il y a beaucoup de choses absolument pas crédibles dans le film.
Et la lumière, je ne la trouve pas très crédible non plus, parce que tu parles effectivement de cet aspect nostalgique. Alors, il y a plein de voitures de collection qu'ils ont ressorties, qu'ils ont bien bichonnées, tout est propre. Hein. Enfin, la lumière est effectivement extrêmement propre, alors qu'on est plongé dans les années 70. Et je repense à La Taupe, j'ai perdu le nom du réalisateur, mais La Taupe qui nous ramenait au temps des services secrets, enfin, qui avait instauré une lumière vraiment particulière, enfin, qui nous plongeait vraiment dans les années 70. Là, alors effectivement, on prend d'une part la nostalgie, de ces films de policiers, mais on plaque une lumière très très actuelle. Voilà, j'ai été un peu déçu par ça.
C'est vrai qu'on revoit souvent les mêmes plans de voiture à plusieurs moments, en fait.
Eh oui. Ça, c'est une question de budget, et puis au bout d'un moment, il y a peu de collectionneurs, donc voilà. Donc c'est La French, et c'est à peu près dans tous les cinémas.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Parlons d'un film qui sort ce mercredi 10 décembre, c'est Qu'Allah bénisse la France d'Abdelmalik. Alors de la haine au néo-réalisme italien, Qu'Allah bénisse la France est une adaptation du récit autobiographique d'Abdelmalik, son auteur, publié il y a quelques années. Alors l'auteur voulait prolonger son exploration des mots par un autre moyen, le cinéma. Filmé en noir et blanc dans une banlieue de Strasbourg, Qu'Allah bénisse la France raconte comment un jeune noir doué pour les études cherche avant tout à faire du rap avec ses copains pour quitter la rue. Il raconte aussi un basculement vers la foi, une quête spirituelle sans que celle-ci ne l'empêche d'être français. C'est une peinture sociale avec beaucoup de tolérance, de la musique, il y en a beaucoup. On écoute Abdelmalik en parler.
Quand j'étais gamin, j'étais ado et tout, il y a une rumeur qui courait dans le quartier, comme quoi il y avait quelqu'un qui avait fait un film sur nous.
À moi tu parles ?
Et ce film s'intitulait La Haine.
Mais mec, c'est moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain !
Donc on est parti à plusieurs et on est allé voir ce film. Et pour la première fois, en fait, on se voyait à l'écran d'une certaine manière. Et ça a été quand même un choc, ça a été quelque chose de bouleversant, de positivement bouleversant. Et puis après, je me suis fait ma propre culture. C'est vrai que je suis un grand admirateur du néo-réalisme italien. Je suis admiratif d'un travail du binôme Carnet-Prévert, le travail d'un Bresson, les 400 coups de Truffaut. Vous voyez, je viens de vous donner que des références en noir et blanc. Pour moi, c'était le fait de le faire en noir et blanc, c'était aussi le fait de rendre hommage au cinéma.
Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça.
Ok. Ok, il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être.
Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là?
Hey.
Oh, je parle comme je veux, lâche-moi un crap, je te dis!
Oh, toi t'es mon petit frère! Je parle comme ça aux gens, tu me fous là en devant tout le monde!
Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling.
Gilles va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes.
Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté.
En fait, c'est quoi Hippocampe là?
C'est Hippocagne.
Ah, pour moi, ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe.
Le film dit qu'en réalité, ce qui compte, même avant la religion, c'est le savoir et l'éducation. S'il n'avait pas eu le savoir et l'éducation, il n'aurait pas compris le message d'ouverture, etc., de l'islam, de paix, d'amour. Il n'aurait pas compris. Parce que ça aurait été en décalage avec sa haine. Et la réalité, c'est que ce qui prépare la réception de la lumière, d'une certaine manière, eh ben, c'est l'éducation et le savoir. C'est l'école. Et c'est dans ce sens où... on doit aider les enseignants, on doit aider l'éducation nationale, faire en sorte que quand on vient de citer, eh ben, l'école républicaine puisse faire aussi son travail à savoir, donner une éducation digne de ce nom, pour que ces gens qui viennent de citer, ou des villages, ou tous ces lieux sinistrés, puissent transcender leurs conditions et réussir comme n'importe qui viendrait d'un milieu plus aisé. Lorsqu'un intégriste ou quelqu'un qui a une vision décalée de l'islam viendra lui dire des choses, il aura l'intelligence et le bagage intellectuel suffisant pour voir que c'est n'importe quoi qui lui est proposé.
Ah, ce n'est pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit.
Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peurard, rien.
T'as besoin de gens rares? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin.
Mon film, c'est un acte de cinéma. C'est pas un pamphlet, c'est pas une réflexion socio-culturelle sur jeu. Non. C'est un acte de cinéma. Et pour moi, on a parlé de mes références tout à l'heure, on a parlé du néo-réalisme italien, on a parlé du cinéma américain des années 70. Tout ça, c'est quand même un cinéma où cinéma et engagement sont presque consubstantiels.
Dis-moi, Renaud, alors c'est le 20e rendez-vous que je t'obtiens là, en si peu de temps. Hein? C'est le 20e?
Bah, je sais pas, ça doit être le 10e.
Mais t'es un malin ou quoi, mon Renaud, là? Oh, c'est le 13e, ma gueule. T'as entendu? 10e, c'est plus compté. Purée, le mec, il sous-estime mon job.
Ah, mais attends, on se fait jeter à chaque fois aussi, oh.
Ouais, mais ça, c'était avant, mon frère. Là, c'est Universal Music, c'est pas pareil, t'inquiète pas. Eh, les plus grands signés là-bas. Elvis, Prince, Michael, Mimi Mati, Chopin, Vivaldi, tout le monde, mon gars. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, qu'est-ce que t'as?
Moi, je tripe pas sur la violence. Moi, je connais la violence. J'ai vu la violence. J'ai été quelqu'un de violent, malheureusement aussi. Je fantasme pas sur ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment la violence devient un langage. Où s'origine la violence? Comment ça se fait que, et pourquoi, lorsque finalement on ne maîtrise pas la langue, lorsque finalement on a l'impression de ne pas avoir la maîtrise de son destin et des choses autour de soi, tout d'un coup on s'exprime par la violence. Il n'y a personne dans les quartiers qui va vous dire la violence c'est super. Le truc c'est de se dire pourquoi tous ces gens qui détestent la violence sont violents.
Tu t'es choisi un prénom?
Abdel Malik.
J'ai reçu une lettre du tribunal, frère.
Je parle de 10 piges, je vais prendre 10 piges, y'a plus de temps d'étrape.
Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix.
On doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France.
Voilà, c'était Abdel Malik pour son premier film, Qu'à la bénisse la France. On en parle très rapidement, Marine, pour féliciter quand même un premier film.
Oui, voilà, oui, quand même. Oui, voilà, pour quelqu'un qui ne vient pas du milieu du cinéma, mais de la musique plutôt, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Comme on disait, un film quand même qui est assez juste, justement, qui n'est pas manichéen, voilà, qui n'est pas excessif dans son propos. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien fait d'un point de vue, comment dire, formel et puis sur le fond aussi. Mmh.
Voilà, c'est pas nique la police, c'est pas nique les Français, c'est pas nique les musulmans. Enfin,
non,
voilà.
Pas du tout. C'est plutôt un appel à la tolérance, contrairement à ce que le titre pourrait laisser sous-entendre.
Merci. Et donc, ça sort ce mercredi 10 décembre.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on va donc bien continuer sur les films qui prônent la tolérance avec White God. Alors Lily, une petite fille livrée à son père pour les vacances, est contrainte d'abandonner son chien Hagen, le gouvernement hongrois, puisque le film se passe en Hongrie, ayant décidé d'éradiquer tous les chiens qui ne sont pas de pure race en prélevant de lourdes taxes à leur maître. Les bâtards abandonnés sont traqués sans relâche et les chenilles débordent, mais les chiens ne vont pas tarder à se révolter. Alors ça pourrait paraître être une uchronie, mais en fait non, c'est vraiment ce qui se passe en Hongrie, puisque... Il faut savoir en fait que la Hongrie a un passé assez traumatique par rapport aux chiens, puisqu'au cours des précédentes années, il y a eu certains cas où des meutes de chiens en fait venaient dans les villes pour attaquer les êtres humains parce qu'ils avaient trop faim. Voilà, la Hongrie également connaît actuellement un virage politique vers l'extrémisme et naturellement, il faut voir dans ce White God et non pas Dog, tout le sens du film justement étant dans cette nuance, il faut y voir une métaphore filée de l'immigration et de la montée de l'extrême droite. En plus d'être une critique des inégalités sociales qui engendrent la violence, Le film s'inscrit en fait dans une mouvance que l'on pourrait qualifier de antispéciste. Alors le spécisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, de même que le sexisme et le fait de considérer l'un des sexes comme supérieur à l'autre, le spécisme consiste à estimer que l'une des espèces animales, en l'occurrence l'être humain souvent, est supérieure aux autres espèces. On peut donc voir White God comme étant également une critique du spécisme. Le problème, eh bien, c'est justement que le film souffre d'anthropomorphisme. À trop vouloir humaniser les chiens en leur donnant des comportements humains, eh bien, le film prend souvent des airs de Walt Disney. Je ne sais pas si, par exemple, vous vous rappelez de ce film « L'incroyable voyage ». Moi, ça m'avait particulièrement marqué, l'histoire de chiens comme ça qui voulaient retrouver leur maître. Bref, c'est quand même un grand classique de Walt Disney. Et donc, voilà, parfois, ce film évoque ces films de Walt Disney dans ce que ça a quand même de plus mauvais et de plus niais, avec un antagonisme particulièrement lourd entre les méchants humains et les gentils animaux, au milieu desquels la petite fille ici fait figure d'unique négociatrice. Alors autant vous dire que si, comme moi, vous n'aimez pas les films avec des enfants et pas les films avec des animaux, bah, vous êtes mal barré. Pourtant, le film aurait pu échapper à ses allures de conte moral pour enfants en osant aller davantage vers le fantastique. C'était quand même un film qui se réclamait à la base des oiseaux de Hitchcock. Il faut dire que le film commence vraiment très fort avec une scène d'introduction qui est magistrale. Par ailleurs, tout le film a été tourné à Budapest et c'est plutôt pas mal parce que ça nous change des films tournés à Manhattan, les quartiers, les villes qu'on a un peu trop l'habitude de voir. Mais au final, eh bien, White God s'enlise très vite dans la parabole lourde. On aurait aimé que le film soit moins dans la maîtrise et dans la morale simpliste, plus dans l'angoisse, dans la sauvagerie, dans l'instinct. Et au final, on bascule trop souvent dans le comique involontaire. Ce qui, je pense, n'était pas du tout le but du réalisateur à la base. Voilà, donc c'est dommage. Heureusement, il y a quand même quelques très belles scènes, mais sur 2 heures, ce n'est pas assez pour pouvoir sauver le film.
C'était quoi, pris un certain regard, non ?
Non, c'était montré dans la catégorie un certain regard, mais je crois que ça n'a que eu la Dog Palm.
Tout le monde est parti dans un silence gêné. D'accord. Voilà, donc c'est White God. God. On le répète. Et maintenant, nous allons jouer à Blind Test.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Mais avant de jouer au Blind Test, parlons de Mr. Turner de Mike Lee. Joseph Mallord William Turner, ou Billy Turner, qu'on va appeler Monsieur Turner, est un célèbre peintre anglais spécialiste de la lumière. Sa vie, son œuvre, on peut la regarder dans une encyclopédie de la peinture, évidemment. Mais ce que donne à voir Mike Lee en 2h presque 30, c'est le quotidien d'un homme ruste, grimaçant, grognant, plus souvent qu'il ne parle. Un homme qui court la campagne, suivant la côte, scrutant les bateaux qui rentrent au port, puisant dans ses paysages les motifs de ses tableaux. Une recherche, une esthétique qui l'amènera à épuiser les formes au profit de la lumière et qui en fera un des précurseurs des impressionnistes. Mike Lee, aidé par son chef opérateur, teinte son film d'une lumière jaunâtre, propre à la peinture de Turner, donc ça c'est fait. Et pour ce qui est de l'exploration du bonhomme, eh bien, la beauté de ses peintures contraste avec son quotidien et le comportement vis-à-vis de son entourage. Mr. Turner est un homme renfermé, brut, on filme même la métaphore avec le porc, oui on va jusque là. Mais si ce Monsieur Turner n'est pas aussi délicieux que ses contemporains, il est tout de même capable de se montrer aimant et charitable. Mike Lee n'aurait insisté que sur le contraste du beau et du sublime face à l'humain, c'eût été décevant. Alors nous voyons les rapports de Monsieur Turner avec son entourage, mais nous voyons aussi son rapport avec ses confrères, soit l'Académie de peinture. C'est un grand moment. Le respect, les jalousies, les échecs. Et Mike Lee, qui a commencé avec des films sociopolitiques, qui prend finalement un certain plaisir à montrer cette caste de peintres. Alors, Mr. Turner, au-delà du biopic, est un film sur le travail, sur l'art et même l'artisanat. Cet homme ne cesse jamais de peindre et d'œuvrer à capter la lumière. Et Timothy Spall est remarqué à Cannes, où il a remporté un prix d'interprétation. Voilà, Mr. Turner de Mike Lee, c'est sorti, c'était le mercredi 3 décembre. Et ça nous donne l'occasion donc de jouer un blind test spécial peintre au cinéma. Alors, il y a eu des Rembrandt, des Goya, des Picasso, des Gauguin, des Klimt ou des Vermeer. Il n'y aura pas tout cela dans les exemples à suivre.
Vous ne peignez jamais l'eau ?
Ah non, j'aime pas peindre l'eau. C'est trop fluide et le reflet est équivoque.
Il y a une chose ou il y en a deux. Ben.
Toi, j'ai vu les stacks de Cézanne comme il peint mal la mer. On dirait du carton, mais on se pomme devant ça.
Ça a été trouvé.
Bah, c'est le Van Gogh de Piala.
Voilà, on commence facile. Et on va, continuer facile aussi avec cet exemple.
Oh,
exposition n'a pas suscité autant d'intérêt que l'avait promis Breton.
Pablo Picasso.
Les artistes mexicains ne sont qu'une curiosité exotique ici. À vrai dire, je me sens très seule. Et je brûle d'avoir des nouvelles du pays. Diego, cette lettre est un mensonge. Paris m'a beaucoup apporté. Mais sans toi, ça ne veut rien dire.
Alors, ça a été trouvé par Marine.
Oui, c'est Frida.
Voilà, mais genre, en plus, on l'entend à un moment. Ah, monsieur Picasso, Frida Kahlo, voilà. Il y a des présentations qui sont quand elle va à Paris.
Où elle parle d'artistes mexicains.
Oui, on a un gros exemple, oui, effectivement. Frida, donc, film de Julie Taymor, sorti en 2003. Un autre exemple.
Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi.
Quoi ?
Aucune ! Tu es un sculpteur de troisième ordre.
Mais tu t'attaques drôlement violemment à un sculpteur de troisième ordre.
Tout vient de moi, rien de toi. Tu te bats trop pour ta sculpture. Il y a longtemps qu'elle se défend par elle-même.
Tu peux m'expliquer pourquoi tu es si jaloux ?
Jaloux ?
Oui.
Jaloux, moi ? Mais moi, je sculpte la vie, pas la mort. Toi, tu donnes tort à la vie.
Alors, ça a été trouvé, effectivement, c'est facile, hein, ce duo Depardieu-Adjani.
Et c'était Camille Claudel.
Voilà, film de Bruno Nuiten, qui est très rare au cinéma, qui a été surtout un grand chef opérateur, notamment de La meilleure façon de marcher, de Claude Miller. Dernier exemple.
Vous êtes un peu un expressionniste primal, pour ainsi dire.
Un primate, vous voulez dire ? Genre chimpanzé ?
Est-ce que vous vous considérez comme un peintre black ?
J'utilise toutes les couleurs, même le blanc.
Et
mais... C'est plutôt créole, je dirais. Ce que j'entends par créole, c'est un mix entre l'Afrique et l'Europe. Un peu comme un Africain en Haïti parle le français.
C'est le cas de votre père.
Mmh.
Et que répondez-vous à ceux qui vous appellent le négrillon du monde de l'art ?
De vous sortez ça ?
C'était dans Time Magazine.
Ah non, 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 ils ont dit que j'étais Lady Murphy, le monde de l'art.
Ah !
C'est pas la même chose.
J'avoue mon erreur. Je suis vraiment désolé.
Et désolé, c'était la voix française de Christopher Walken, une espèce de journaliste vaguement raciste quand même. Face donc à
Basquiat.
Voilà.
Jean-Michel Basquiat.
Film de Julian Schnabel.
C'est pas évident à reconnaître là, parce que moi je l'ai vu en VO et...
Ah, effectivement, bah oui. Non mais là il est question quand même d'art métissé. Enfin bon, on aurait pu trouver avec ces petits exemples, avec un casting impressionnant, David Bowie, Dennis Hopper, Gary Oldman, Christopher Walken, William Dafoe, et même Courtney Love, la copine du chanteur de Nirvana.
De Kurt Cobain,
tout à fait. Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial peintre au cinéma. On pourra en refaire un autre durant la saison de Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors si la célébrité de la Hammer reste à jamais tributaire de ses épatantes adaptations, variations autour des grands mythes que sont Frankenstein et Dracula, la série des Quatermass est devenue auprès de toute une génération de cinéastes cinéphiles un triptyque de référence, un objet de culte très convoité. Alors suite au succès radiophonique d'abord, hein, des aventures du professeur Quatermass au gré de récits inquiétants imaginés par Nigel Knill, et ensuite une série produite par la BBC, la Hammer s'empare du projet et décide de transposer ses histoires sur grand écran. Alors le succès récent de certains films de science-fiction, hein, comme Le Météore de la Nuit ou La Guerre des Mondes, reflète certes l'opportunisme de la firme, mais le résultat dépasse de loin les espérances les plus folles et se situe nettement au-dessus des productions US pourtant nantis de budget très supérieur. Alors si la Hammer reste soumise à des diktats économiques, elle n'est pas avare en audace. La réalisation des deux premiers Quatermass fut confiée à Val Guest, un honnête artisan prolifique. Le monstre, 1954, frappe par son ton quasi-documentaire et tranche avec la SF fantaisiste de l'époque. Alors d'entrée, un style à part entière s'affirme, un noir et blanc blafard, proche de l'esthétique télévisuelle, une interprétation marquée par la neutralité, hein, aux antipodes du jeu théâtral de bien des films anglais de l'époque, des personnages réduits à leur stricte fonctionnalité et un scénario rectiligne, sans fioritures, rentrant directement dans le vif du sujet, renforce cette impression. Alors Val Guest et son co-scénariste Richard Landau jouent la carte de la crédibilité avant tout au risque de paraître vaniteux. Alors le pitch est simple, hein, une fusée s'écrase en pleine campagne, le professeur Quatermass se rend sur les lieux de l'accident, l'équipage n'a pas survécu à l'exception d'un seul survivant, Victor Caroun, qui se comporte de façon étrange. En effet, il se transforme en une sorte de végétal particulièrement belliqueux. Alors, fidèle collaborateur de la Hammer, Val Guest connaît son métier sur le bout des doigts et mène son récit de façon très convaincante. Pas de temps mort ni d'intrigue secondaire. venant gâcher la fête. Alors, les effets spéciaux sont réduits au strict minimum, ce qui rend le film encore plus crédible aujourd'hui. Le thème de l'extraterrestre est habilement exploité, loin des habituelles visions naïves d'envahisseurs déguisés en petits hommes verts. Voilà. On va écouter un extrait de la bande originale du film, ou de la bande-annonce, je ne sais plus, mais on va voir.
You can't escape it.
Maggie, look!
Nothing can destroy it. It's coming for you from space to wipe all living things from the face of the earth. Beware of the creeping unknown.
Alors, suite au succès du premier, la même équipe remet le couvert pour de nouvelles aventures du professeur avec La Marque. Un pas en avant est franchi dans le domaine de la SF paranoïaque. Alors, avant l'invasion des profanateurs et la série imaginée par Larry Cohen, Les Envahisseurs, les scénaristes ont imaginé une invasion d'extraterrestres absorbant la personnalité des individus. Alors, fidèle à un esprit de série B, hein, le film commence brutalement, dans le vif du sujet. Hein. Une femme conduit une voiture nerveusement, avec à ses côtés un homme apparemment malade. Celui-ci porte les stigmates d'une marque étrange causée par des déchets provenant d'une mystérieuse usine. Ces marques modifient le comportement des gens. Quatermass, intrigué, enquête et découvre que cette usine fabrique bien de la nourriture, mais d'un genre très particulier. Alors, moins profond que le monstre, hein, La Marque n'en demeure pas moins l'exemple type du film de genre jouissif et prenant. Les idées fusent, le rythme est trépidant, la crédibilité de l'ensemble tient dans cette étrange alchimie entre délire improbable et le souci permanent de réalisme. Alors, une certaine idée de la modernité émane de ces joyaux de la SF, hein. Au moins deux pistes semblent confirmer cette hypothèse. Alors, premièrement, la série Quatermass prend le contre-pied de la SF traditionnelle, très virulente vis-à-vis de la science et des dangers qui en découlent. Cette visée un peu moraliste et religieuse imprègne la science-fiction de l'époque, peu encline à accepter le progrès et l'avenir comme source de bonheur, alors même qu'elle semble fascinée par l'imagerie de ce futur. La série de Nigel Knill possède un esprit non pas progressiste, ce qui vient d'ailleurs est quand même un peu néfaste, mais positiviste. La science a raison de tout. Ce qui fait du bien dans un contexte, notamment les années 50, hein, marqué par un certain obscurantisme, du moins dans le cinéma populaire. Alors deuxièmement, dans Le Monstre et La Marque, la représentation graphique des envahisseurs vire à l'abstraction. Une forme végétale indistincte pour le premier, une masse gélatineuse et un peu scato pour le second. Alors plus convaincante que le blob, hein, son cousin d'Amérique, car extirpé des considérations politiques naïves, ces créatures ont néanmoins imprégné l'imaginaire d'une génération de cinéastes, dont on peut citer John Carpenter ou David Cronenberg. Alors il faudra quand même attendre 12 ans pour avoir des nouvelles du professeur Quatermass sur grand écran avec le très curieux « Les monstres de l'espace » de Roy Ward Baker. Alors le comédien américain Brian Donlevy laisse place à Andrew Kerr, acteur au jeu plus flegmatique. Hein. Le style a aussi changé, hein, place au tournage en studio, aux lumières gothiques chiadées. Alors signé cette fois-ci par Roy Ward Baker, un autre habitué de la Hammer, hein, qui a réalisé notamment « Les 7 vampires d'or » et Dr. Jekyll et Sister Hyde, les monstres de l'espace, malgré des effets spéciaux vraiment risibles, là pour le coup, les martiens ressemblent à des crevettes. Alors ça préfigure les thématiques philosophiques et métaphysiques d'œuvres aussi diverses que 2001, l'Odyssée de l'espace ou Rencontre du troisième type. Alors Baker, hein, conduit son film comme un authentique film d'épouvante d'inspiration plus lovecraftienne se déroulant dans le métro londonien. La conclusion délirante en laissera d'ailleurs plus d'un sans voix, les humains seraient en réalité des martiens. Un propos ahurissant qu'un certain Larry Cohen reprendra à son compte dans un film qui s'appelle « Meurtre sous contrôle ». Alors voilà, je conseille un peu cette série, hein, qui inaugure donc mes premiers films de la Hammer. Hein. La semaine prochaine, je vous parlerai de « The Vampire Lovers ». Un autre film d'ailleurs de Roy Ward Baker.
Alors si évidemment la Hammer a recommencé à produire des films, ces films ne sont pas visibles en salle.
Et il faut... Si
Ceux-là, Quatermass.
Ah, les anciens, oui. Non, je pensais les nouveaux. Parce que
non, mais les nouveaux, oui, forcément. Oui. Et donc, ceux-là sont visibles en DVD.
En DVD, voilà, et assez facilement trouvables.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
C'est donc la semaine prochaine que nous pourrons entendre Rem Rosales, le réalisateur. Nous entendrons aussi Éric Lartigot pour La Famille Bélier. Et ce sera déjà un bon élément.
Et moi, je vous parlerai de Men, Women and Children de Jason Reitman.
Et moi, je vous ferai peut-être un bilan des cadeaux de Noël à faire en matière de DVD et Blu-ray.
Voilà. À la semaine prochaine.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.